Jacques Ellul, comment expliquez-vous que de nombreux chrétiens soient actuellement non seulement fascinés par le marxisme comme un espèce d'objet de spéculation ou interrogés par lui comme une incroyance interroge la foi, mais se définissent même comme chrétiens marxistes?
Je pense qu'il y a deux explications. La première, c'est que les chrétiens se sont depuis des siècles abstenus d'une intervention spécifique, disons, dans la société. Et il y avait, si l'on veut, semble-t-il, deux domaines. L'Église instituée qui, elle, avait une prise de position politique, qui avait une orientation politique, etc. Et puis les chrétiens, à titre individuel, à qui on demandait ou bien de suivre ce que disait l'Église, ou bien qui transformait la foi en une piété purement individuelle, et la foi comme le salut, c'était une affaire purement personnelle. Et ces chrétiens, qui étaient d'authentiques chrétiens, de vrais croyants et fidèles à leurs églises, se trouvaient, suivant la formule de Peggy, des chrétiens sans main. C'est-à-dire que ils n'avaient aucune espèce de prise sur la réalité, ni de leur vie, de la vie collective, ni du monde politique. Alors, il y a eu une espèce de réveil extraordinaire depuis 20-25 ans, où les chrétiens ont réalisé, et en Europe, ça a été principalement à la suite de la guerre et de la résistance, les chrétiens ont réalisé qu'il fallait absolument qu'ils s'engagent, qu'ils fassent de la politique, etc. Seulement, ça n'est pas si simple. C'est-à-dire que il faut quand même connaître un certain nombre de choses pour faire de la politique. Or, ils étaient généralement, et je pense à d'innombrables intellectuels chrétiens, totalement innocents. Et alors, dans ce monde complexe, d'une part, et ce monde dont ils ne connaissaient rien, sortant de leurs réflexions pieuses ou de la connaissance biblique, ils ont cherché ce qui leur apparaissait le plus efficace, le plus immédiatement actif dans le monde. Et ça a été leur est apparu évidemment le marxisme, les partis communistes. Ça, c'est l'un des aspects. L'autre aspect qui me paraît aussi important, c'est que, en définitive, le marxisme, non pas comme théorie rigoureuse de la pensée de Marx, et pas non plus comme doctrine clairement explicitée, mais le marxisme est en somme devenu notre pain quotidien à tous. Qu'on soit marxiste ou qu'on soit pas marxiste, nous pensons tous marxistes en réalité.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Donnez-nous des exemples.
Nous pensons tous marxistes, nous sommes tous convaincus que les conditions sociales déterminent les possibilités de la pensée, nous sommes tous convaincus que si l'homme accède à un certain niveau de vie, il en débouchera sur un niveau humain plus élevé. Nous sommes tous convaincus que l'histoire est tout le temps en progrès et que l'on va vers une société qui doit être une société de justice et d'égalité. Donc, une espèce de, je pourrais donner beaucoup d'autres exemples, mais une espèce de bon sens commun qui vient du marxisme, en réalité. Le marxisme est une espèce de, au fond, de lieu commun pour tout le monde, même si on ne sait pas qu'il s'agit du marxisme. Et alors, les chrétiens ont toujours eu la fâcheuse habitude d'essayer de s'adapter à la philosophie dominante. Pas seulement... Là, j'emploie un terme qui est presque marxiste, justement, pas seulement au régime dominant ou à la classe dominante, mais à la philosophie dominante. Quand Platon est apparu comme un astre au milieu des théologiens chrétiens, brusquement ils se sont dit, mais au fond, il faut absolument adapter le christianisme à Platon. Quand on a redécouvert Aristote, ça a été exactement la même chose. Eh bien, on fait la même chose maintenant. Chez les intellectuels chrétiens, il reste un grand penseur, il reste un grand philosophe, c'est Marx, et en plus il est efficace, en plus il a donné naissance à des régimes politiques. Alors comment le christianisme pourrait-il rester indépendant et en marge? Autrement dit, c'est un pur et simple phénomène d'adaptation qui n'a pas plus de valeur que les précédents.
Mais à votre avis, est-ce qu'un chrétien peut, comme certains le font, se dire marxiste?
Alors je connais assez bien le marxisme, et je le connais de l'intérieur. J'ai été très, avant de me convertir au christianisme, j'ai été très proche ou convaincu par la pensée de Marx. Je n'ai jamais été membre du Parti communiste parce que il m'est apparu très jeune que le Parti communiste français, ça se passait aux alentours de 1930, n'était pas du tout conforme à la pensée de Marx telle que du moins j'apprenais à la connaître. Mais enfin, j'ai vécu Marx de l'intérieur. Marx pendant longtemps m'est apparu comme celui qui permettait la meilleure explication et de l'histoire et de la société dans laquelle je vivais, etc. Bon, ça n'expliquait pas tout, ça ne répondait pas à tout, et c'est au travers d'un long cheminement que j'ai ensuite découvert l'Évangile, ou que j'ai été découvert par l'Évangile, ce qui est autre chose. Je l'ai vécu, ce problème, parce que on ne peut pas se débarrasser de Marx facilement. Hein. Quand on a été pénétré de cette pensée, mais qu'on la connaît bien, hein, qu'on y est entré dedans, on ne s'en débarrasse jamais. Ce qui fait que, lorsque je me suis converti, j'ai connu de l'intérieur la question « est-ce que c'est possible de rester pour moi marxiste ?» J'ai fini par être convaincu que non. Et j'ai fini par être convaincu que non, avec beaucoup de difficultés, dans la mesure où, qu'on le veuille ou non, le matérialisme de Marx, l'antithéisme de Marx, ce n'est pas du tout des éléments qui sont annexes, secondaires, etc. Ce sont des éléments centraux dans la pensée de Marx. Alors ça, c'est une première facilité que l'on se donne quand on prétend actuellement être en même temps chrétien et marxiste, c'est de dire, mais au fond, c'est pas la peine de se lancer dans le problème théisme, antithéisme, théisme, Dieu, pas Dieu, tout ça. Bon, laissons ça de côté. On ne peut pas laisser ça de côté. Bon. Alors évidemment, ça facilite beaucoup les choses quand on est un adepte de la théologie de la mort de Dieu, mais je suspecte les théologiens de la mort de Dieu précisément d'être entrés dans cette voie aussi un peu sous l'influence du marxisme, parce que ça facilitait bien les choses. À partir du moment où on ne pose plus le problème de Dieu et qu'on déclare, bon, on est chrétien mais il n'y a pas de Dieu, ça va beaucoup mieux avec la pensée de Marx. Il y a un autre élément qui évidemment me paraissait tout à fait contradictoire entre la pensée de Marx et le christianisme, et c'est essentiellement le fait que pour Marx, il n'y a pas d'autre issue possible pour un homme que de travailler dans la lutte des classes et de déboucher sur une société socialiste qui permet un homme nouveau. Or, pour nous, s'il est certainement important qu'il y ait une justice, s'il y était essentiel que la société actuelle soit contestée, remise en question, ce n'est pas au travers de la lutte des classes et ce n'est pas en débouchant dans une société socialiste que l'homme nouveau va naître. La nouvelle naissance qui est annoncée dans les évangiles, ce n'est pas l'entrée dans le monde socialiste. Alors là, nous sommes en présence de deux contradictions qui sont très fondamentales. Mais ce qui me paraissait très important à conserver chez Marx, c'est la méthode d'analyse des phénomènes historiques et de la société, et personnellement j'ai continué à l'appliquer dans mes études, par exemple sur le système technicien, je prétends appliquer très rigoureusement la méthode analytique de Marx. Ça me paraît important à conserver.
Mais le chrétien, qui par exemple vit dans les pays sous-développés, car c'est d'abord là actuellement que le problème se pose de la façon la plus aiguë, comment peut-il tout à coup s'engager dans une action politique, n'est-ce pas, sans passer par ce biais de l'action marxiste? Est-ce qu'il est possible, si vous voulez, que le christianisme engendre lui-même une certaine politique?
Alors, effectivement, je crois qu'il faut bien distinguer. Je vise d'abord, et dans ce que j'ai dit tout à l'instant, je visais plutôt les chrétiens marxistes du monde occidental qui sont tentés de cette façon-là. Dans le tiers-monde, on se trouve en présence, évidemment, de problèmes qui sont quand même assez différents. C'est-à-dire que les problèmes de la justice immédiate, d'une justice sociale immédiate, sont infiniment plus tragiques et infiniment plus urgents qu'ils ne le sont partout ailleurs dans le monde. Mais alors, la question fondamentale que le chrétien est obligé de se poser, c'est, quand je pense aux théologies de la libération, c'est quand même libérer ces peuples, oui. Mais pour qui? C'est-à-dire non pas les libérer de quoi? Ça c'est très simple, les libérer du capitalisme, de l'impérialisme, etc., etc. Bon, ça la réponse est très simple. Mais les libérer pour qui? Parce que, autrement dit, qui va prendre le pouvoir? Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, jusqu'à présent, à l'issue d'aucune espèce de révolution, où qu'elle se soit produite de type marxiste, le peuple n'a pris le pouvoir. Ça n'a jamais été le peuple qui a pris le pouvoir. Le peuple a été toujours soumis à de nouvelles autorités, à de nouvelles dictatures, et des dictatures qui étaient finalement, très souvent, plus rigoureuses que les précédentes. Alors, avant de s'allier avec un mouvement marxiste, il faut évidemment se poser quand même la question du débouché. Et quand on connaît un peu la rigueur de la stratégie et de la tactique marxiste, il est évident que les chrétiens ne font pas le poids. On peut s'allier avec des marxistes, ce qui va l'emporter, c'est pas la bonne volonté des chrétiens. Ce qui va l'emporter, c'est l'appareil du parti.
Vous pensez donc que les marxistes sont finalement de mauvaise foi?
Ah non! Les marxistes ne sont jamais de mauvaise foi, ils vous disent très clairement ce qu'ils veulent faire. Il suffit de lire Lénine et on sait exactement ce que, par exemple, vous voyez clair comme le jour que chez Lénine, que les peuples du tiers-monde sont un allié qu'il faut utiliser dans la lutte du prolétariat. Mais c'est un allié qu'il faut utiliser, un point, c'est tout. Il n'a jamais été question de penser que les peuples du tiers-monde, pour Lénine, devraient acquérir leur autonomie, leur indépendance, etc. Ça n'existe pas. Ils sont pas de mauvaise foi parce que on n'est tout simplement pas suffisamment éveillé pour lire ce qui est clairement chez les marxistes.
Mais est-ce que vous croyez que les chrétiens devraient s'organiser en parti politique typiquement chrétien, avec une, je ne sais pas, un peu comme on a pu connaître à certains moments donné les démocraties chrétiennes,
quoi? Sûrement pas. Alors là, s'il y a sûrement une chose que les chrétiens ne peuvent pas faire, c'est de former le petit bloc qui va devenir d'abord un parti politique. D'abord parce qu'il n'y a pas de doctrine politique chrétienne qui puisse être tirée des évangiles malgré Bossuet. C'est pas possible. Bon, alors, comme il y en a eu des douzaines que l'on a tiré des évangiles, il vaut mieux renoncer à ce petit jeu. Alors, donc, il n'est pas question d'avoir un parti politique chrétien. Je crois qu'il est bon que des chrétiens soient partout et que des chrétiens soient en relation avec tout le monde. Ce qui me paraît dangereux dans les histoires de théologie de la Révolution ou de chrétiens qui se disent chrétiens marxistes ou chrétiens pour le socialisme, etc., c'est que, précisément, ils s'assimilent entièrement avec une autre cause, je dirais. S'ils étaient le ferment contestataire, en quelque sorte, face à des marxistes, acceptant de coopérer avec eux, après tout dans la résistance, on a coopéré en France avec des marxistes, il y a eu des chrétiens qui ont coopéré, mais il s'agissait toujours, ce qui a été très rare, il y a eu peu de chrétiens qui ont eu l'énergie de le faire, de ne pas se laisser séduire par le mouvement de l'action, mais d'être tout le temps l'œil critique dans l'action. Et alors ça, les marxistes le supportent très mal. La collaboration avec les marxistes et les communistes est très difficile si vous prétendez être avec eux, mais un œil critique.
Est-ce que c'est dire à la limite que le chrétien devrait renoncer à ce qu'on a pu appeler une civilisation chrétienne?
Alors, je pense qu'on n'a jamais eu de civilisation chrétienne. Il y a eu une civilisation où l'Église a été un pouvoir dominant. Mais l'Église, à ce moment-là, étant beaucoup moins monolithique et beaucoup moins autoritaire qu'on ne l'a représenté. L'Église catholique en Europe est devenue extrêmement autoritaire après le XVIe siècle. Avant, malgré les histoires de l'Inquisition que l'on a beaucoup exagérées, avant, l'Église catholique tolérait d'innombrables pensées divergentes. La théologie de la mort de Dieu, elle existait au XIIIe siècle dans le catholicisme. Quand ça a été formulé, on a dit, tiens, c'est intéressant, ça peut être discuté. Mais on n'a pas considéré comme hérétiques ceux qui soutenaient la théologie de la mort de Dieu à cette époque. Alors, je ne crois pas donc qu'il y ait eu une civilisation fondamentalement chrétienne. Ça a été une civilisation où l'Église jouait un rôle, où elle avait influencé un certain nombre d'institutions. Ça, sans aucun doute, et de très bonnes institutions en général. La paix de Dieu, par exemple, c'est une excellente institution. Je ne pense pas que les gens au Moyen-Âge étaient beaucoup plus chrétiens que nous ne le sommes maintenant.
Hein. Donc en un mot, n'est-ce pas, vous refusez l'idée, disons, de syndicats chrétiens, de presse chrétienne. Le chrétien doit être, finalement, non pas dans les institutions, mais livré à lui-même.
Non, il doit être partout.
Il y en a partout.
C'est-à-dire, mais on reprend les vieilles images de l'Évangile, le sel, si vous êtes le sel, le sel, il est dans la soupe et il se fond. Hein, il disparaît dans la soupe, il a donné sa saveur, il est dans toute la soupe. Il reste pas, il faut pas qu'il reste dans la salière. Le levain, il n'a de valeur que s'il est mélangé à la pâte. Et il ne doit pas rester dans le pot à côté de la pâte. Donc, il faut qu'il y ait des chrétiens dans tous les coins. Mais en restant avec leur spécificité chrétienne. Avec une espèce d'authenticité qui fait que partout, ils seront là et pas tout à fait là. Hein. Ils sont dans le monde et pas du monde.
Oui, mais ça, c'est finalement impossible, n'est-ce pas? C'est finalement une situation d'écartèlement continuel.
Ah ben, je pense que ça, c'est la condition chrétienne exactement. C'est la condition chrétienne d'être l'homme qui est en même temps de ce monde-ci. On peut pas le renier, on peut pas le répudier. On est dedans. Il faut pas se faire d'illusions. Quoi qu'on fasse, on est dedans et on est de notre monde. On ne peut pas prétendre être un chrétien du 1er siècle ou un chrétien du 13e. Dali a tout à fait raison quand il dit il y a une chose que vous ne pourrez pas faire, c'est ne pas être moderne. Vous êtes forcément de l'époque où vous êtes. Bon. Et d'autre part, vous êtes enraciné ailleurs. C'est-à-dire en reprenant là aussi des termes des épîtres des Hébreux ou de Pierre, étrangers et voyageurs sur la terre, nous sommes sur la terre, mais nous sommes jamais enracinés dans un lieu, nous ne sommes jamais appartenant à un lieu, nous avons un espace à parcourir et nous avons un rôle particulier que personne ne peut jouer.
Mais ce qui fait que finalement le chrétien est nécessairement un être minoritaire, n'est-ce pas?
Oui.
Vous ne croyez donc pas à cette possibilité, je dirais, n'est-ce pas, d'une espèce de retour d'un christianisme triomphant comme on a pu le connaître?
Non, alors ça, je crois que nous devons avoir de perdre tout à fait l'espoir d'un triomphalisme chrétien, compte tenu que je pense que c'était une erreur. Là aussi, Jésus nous avertit toujours, vous serez toujours le petit troupeau. Vous n'allez pas être la majorité, vous n'allez pas remporter une guerre. Ça, vous serez toujours le petit troupeau disséminé. Par conséquent, effectivement, nous sommes appelés à prendre nos responsabilités personnellement, nous sommes appelés à prendre nos décisions. Nous, chaque fois qu'un chrétien prend des décisions, il fait beaucoup de bêtises, mais il fait toujours une fois quelque chose qui est ce qu'il fallait faire.
Mais il ne peut pas les prendre au nom du christianisme. À ce moment-là, il les prend au nom de ce que Dieu peut lui dire à lui. De sorte que vous acceptez que vous, par exemple, Jacques Ellul, vous êtes, disons, chrétien de gauche, et qu'à côté de vous, il y ait des chrétiens de droite.
Bien sûr. et il s'agit. Alors, un des premiers éléments de la vérité chrétienne à ce moment-là, ça sera que nous puissions dialoguer, quoique étant de droite et de gauche. C'est pas toujours facile. C'est pas beaucoup plus facile d'avoir une relation avec un chrétien de droite qu'avec un communiste. Pour moi, c'est à peu près aussi compliqué. Mais s'il y a une authenticité, disons, de l'Église, c'est quand même le lieu où les convictions les plus contradictoires doivent pouvoir entrer en dialogue.
Oui, mais c'est justement à quelles conditions le dialogue peut-il être possible ? Entre nous d'abord.
Le dialogue est quand même certainement possible à partir du moment où nous prenons au sérieux, disons, le commandement de l'amour du prochain, ou de l'amour qui est d'ailleurs de l'ennemi, parce que le prochain et l'ennemi, c'est la même chose. Tout prochain, Karl Barth avait admirablement eu raison de dire « le prochain, c'est toujours pour moi un obstacle ». Alors, aimer son prochain, c'est pas aimer quelqu'un qui est aimable, mais c'est quelqu'un qui est empoisonnant, toujours.
Vous n'êtes pas gêné par les intégristes, hein, parce qu'il n'y a pas que chez les catholiques qu'il y a des intégristes, n'est-ce pas ?
Eh bien, les intégristes, le dialogue est difficile avec eux parce qu'ils ont une certaine rigueur doctrinale. Mais il s'agit de, au fond, si vous voulez, quand leur rigueur doctrinale les amène à reconnaître que, au-delà des institutions et au-delà des formulations théologiques, il y a une certaine vérité, si vous voulez, des dons essentiels, la foi, l'espérance et la charité, et que là, on a quand même un terrain sur lequel on peut quand même parler ensemble. Mais je crois qu'il ne faut pas quitter ce terrain-là.
Oui, mais les intégristes vont vous dire, par exemple, enfin, je pense plus particulièrement peut-être aux intégristes, disons, catholiques, n'est-ce pas, vont vous dire, nous, ce que nous voulons sauver, n'est-ce pas, c'est l'Occident que vous menacez, vous sont les valeurs occidentales que vous menacez. Comment vous réagissez à une telle accusation ?
Je pense qu'il faut se mettre à réfléchir avec eux sur quelles valeurs va-t-on sauver, hein, et qu'est-ce qui menace ces valeurs ? C'est-à-dire que, est-ce que ce n'est pas d'abord notre propre trahison qui menace les valeurs en question ?
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Simplement, si vous voulez, lorsque, pour moi, une des expressions les plus essentielles de la vie chrétienne, c'est la liberté, est-ce que, et ça, alors, il faut reprendre les textes bibliques, Dieu est d'abord le Dieu de l'Exode, il est d'abord le Dieu libérateur. Eh bien, est-ce que, lorsqu'on me dit l'important, c'est l'institution de l'Église, c'est le cadre, c'est la tradition, c'est tel ordre de la messe, etc., je suis quand même forcément obligé de poser la question du fondement biblique qui se trouve à la base. Et toujours, toujours à l'origine de tout ce qui peut nous déplaire dans l'intégrisme, il y a toujours une vérité chrétienne. Mais il faut qu'il revienne à cette vérité chrétienne.
Oui, mais pour vous, n'est-ce pas, cette libération, elle passe nécessairement par la non-violence. Et c'est là que aussi, n'est-ce pas, on a l'impression qu'il y a une espèce de contradiction chez vous, n'est-ce pas, vous. Comment pouvez-vous accepter la non-violence dans une société où finalement tout fait violence ?
Mais c'est précisément parce que tout fait violence dans cette société que le seul acte qui soit révolutionnaire, c'est d'être non-violent. C'est de ne pas être comme elle. Vous comprenez, je pourrais dire que le système de notre société, pour employer un mot commode, est tel qu'il récupère toutes les contestations. Tant qu'elles se situent au même niveau et dans le même cadre que la société elle-même. C'est-à-dire si vous répondez à la violence par la violence, alors là, tout le monde est très content. La police est très contente, ça va très bien, on est sur un terrain que l'on connaît, on sait comment il faut faire. Bon. Et par conséquent, toute violence est finalement récupérée, parce que plus on a affaire à quelqu'un de violent, plus il faut renforcer le pouvoir, par exemple. C'est une évidence. Donc, le système se renforce de la contestation violente qu'on lui oppose. Par contre, si on sort véritablement de toute cette orientation, eh bien, on se trouve avec la non-violence, par exemple, on met tout l'ensemble d'une société comme la nôtre en porte-à-faux. Je pense à cette fameuse croisière qui a été tentée pour empêcher l'explosion de la bombe atomique en 75 ou 76 en Polynésie. Les problèmes que ça a pu poser au point de vue, ça n'a pas eu d'efficacité immédiate, mais les problèmes que ça a pu poser au point de vue diplomatique, au point de vue juridique, au point de vue... Enfin, faire raisonner un bateau, par exemple, en dehors des eaux territoriales, c'est absolument impensable. Alors, c'est ce que l'on a été amené à faire. Autrement dit, cette société est beaucoup plus mise en difficulté à l'égard de ses propres principes, tu vois, en face de quelqu'un qui est non-violent. Ça, c'est une attitude qui est fondamentalement contestataire, la non-violence.
Est-ce que vous ne seriez pas porté à dire que finalement, actuellement, les chrétiens qui veulent s'engager dans une certaine action pour transformer la société manquent d'imagination?
Oui, et je crois que il est vrai que en face d'un monde comme le nôtre, qui est extraordinairement complexe, il faut vraiment inventer. Mais alors, je crois que l'imagination est une vertu chrétienne. Alors ça, c'est pas dans la Bible. Mais je crois que c'est une vertu chrétienne parce que le Dieu biblique, c'est un Dieu dont on nous dit qu'il est non seulement libérateur, mais il est le Dieu qui fait du nouveau. Il y a, c'est une vieille vérité théologique d'ailleurs, le novum de Dieu, et dans la mesure où c'est un Dieu qui crée toujours du nouveau, c'est pas un Dieu qui le crée du haut du ciel et par une espèce de phénomène magique, c'est un Dieu qui le crée par l'intermédiaire de gens. Et par conséquent, il exige de ceux qui croient en lui une imagination créatrice.
Jacques Ellul, je vous remercie.
Parmi les nombreux essais de Jacques Ellul, signalons L'espérance oubliée, où il nous invite à dissiper nos illusions pour nous attacher à l'unique nécessaire. Ellul va plus loin dans Trahison de l'Occident en disant « L'Occident se meurt d'avoir gagné sur Dieu ». Enfin, dans Sans feu ni lieu, Ellul montre quel avenir véritable est possible à l'homme quand il s'est renoncé à ses œuvres.